Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Nos indispensables du jour, un crooner en mode jazz et Spider-Man comme vous ne l'avez jamais vu. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Évidemment, vous pouvez podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média, aujourd'hui 8 mars, journée des droits des femmes, on s'interrogera une fois de plus, hélas, sur la place des femmes dans les médias et notamment une catégorie en particulier, les expertes. Nous serons avec la directrice de la rédaction du HuffPost, Lorraine Provost, site sur lequel elle a publié une tribune qui demande aux expertes de se manifester davantage, et avec elle, Christelle Chiroux, journaliste à TF1, qui travaille sur une opération que le groupe TF1 lance aujourd'hui, la première promotion d'expertes à la une. Puis nos invités, la directrice générale, la patronne quoi, de Studio 89, qui produit notamment Top Chef, Laurence Duhaillot, qui lance ce soir la saison 5 de Mariée au premier regard, une émission qui fait un carton sur la cible féminine et qui peut faire bondir les féministes. Enfin, le chanteur Raphaël, pour son nouvel album Haute Fidélité, qui nous donnera en prime une version live de son titre Le Train du Soir dans ce studio, et on en est ravis. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour Philippe.
Je jouais la basse en même temps. Pardon, je vous ai chevauché si j'ose dire. Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire, Antoine, de votre journal des médias.
La place des femmes dans les articles de presse, je vous l'annonce, les chiffres ne sont pas bons. Une exclusivité pour TMC et le message de Sébastien Thoen aux journalistes des sports de Canal+.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir.
Alors comme la semaine dernière, c'est le film de TF1 qui s'est imposé, Lucie de Luc Besson, 4 790 000 téléspectateurs, 20,6% de part d'audience, c'est la même part d'audience que la semaine dernière. Même chose pour France 3, qui est deuxième, même part d'audience, 12 que la semaine dernière, 12,7% et 2 970 000 téléspectateurs pour les carnets de Max Lieberman, une série britannique. Ensuite, c'est M6 qui est en forme, hein, Zone interdite sur la vie en prison, 2 553 000 téléspectateurs, 12,1% de part d'audience.
Et samedi soir,
The Voice, cinquième semaine, cinquième fois leader, et en plus en nette hausse, un peu plus de 6 millions de téléspectateurs, c'est 700 000 de plus que la semaine dernière, 28,4%.
Et à ces téléspectateurs, on ajoute Bertrand Chameroy qui a bien regardé The Voice.
Ah, et qui décryptera
alors. Exactement, tout à ce sera à 10h.
Ensuite, France 3 résiste très bien avec un épisode de Commissaire Magellan. Très joli score, 5 100 000 téléspectateurs. Et pourtant, France 3 a pris la décision d'arrêter la série prochainement. Enfin, France 2, loin derrière avec le match de foot PSG-Brest, 2 millions de téléspectateurs, 8,8% de part d'audience. Un mot quand même de l'audience du concert des Enfoirés vendredi soir. Sans surprise, il écrase la concurrence. 9 250 000 téléspectateurs, 38,3%. Très légèrement en baisse par rapport à l'année précédente, mais tout de même, tout programme confondu, c'est évidemment la meilleure audience en 2021 de TF1 et de la télévision.
Oui, parce qu'il y avait...
Culture Média.
Parce qu'il n'y avait pas de gros match de foot cette année, mais enfin c'est énorme comme
pas
score.
Encore, pas encore.
Journal des médias avec vous Antoine. À la une, la place des femmes dans les articles de presse écrite, la presse papier, le web l'an dernier.
Et ce n'est pas brillant. Parmi les 1000 personnalités les plus médiatisées, 1000 personnalités féminines, moins de 19,2% sont des femmes. C'est peu, très peu. Cela dit, on se console comme on peut. Ce chiffre est en progrès. C'est même le plus haut niveau depuis 2013 selon l'organisme qui donne ces chiffres, Tag Day. Il a analysé un an d'articles. Article. Dans le détail, les femmes les plus médiatisées sont dans l'ordre Angela Merkel, Anne Hidalgo et Marine Le Pen. Il est intéressant de voir aussi la répartition des femmes par catégorie. C'est en culture et médias, tiens, que le pourcentage est le plus élevé, 48%, puis vient la politique, 34%. Pour le sport, ça descend à 21%. Et c'est beaucoup, beaucoup plus bas pour les affaires, 1% seulement pour le business, comme l'an passé. Même constat que pour l'audiovisuel dont nous parlions vendredi avec le rapport du CSA, la presse a donc encore du chemin à faire.
Et c'est vrai que si on parle du CAC 40, c'est difficile de trouver des femmes. On va continuer à parler de la place des femmes dans les médias, des expertes précisément, ce sera dans l'info média du jour, juste après ce journal. Et on continue Antoine, avec un changement de présentatrice pour le Grand Échiquier.
Anne-Sophie Lapix arrête. Cela faisait un peu plus de 2 ans que la journaliste en assurait la présentation, en plus du journal de 20h de France 2, journal sur lequel elle dit vouloir se concentrée désormais. Elle explique que l'actualité est très intense et que les élections présidentielles approchent. On ne peut pas la contredire. Elle l'a dit à nos confrères du Parisien, à qui elle précise que l'émission, par ailleurs, va évoluer avec un peu plus de variété. Ce qui ne me correspond plus tout à fait, dit-elle. Et c'est Anne-Elisabeth Lemoine qui va la remplacer. La présentatrice de C'est à vous l'avait déjà fait, hein, au pied levé. C'était il y a un mois environ. Anne-Sophie Lapix avait alors contracté le virus de la Covid-19.
TMC casse son antenne ce soir.
La chaîne du groupe TF1 va diffuser en prime time vers 21h. l'interview événement de Meghan et Harry. Vous en avez peut-être entendu quelques extraits dans le journal il y a quelques instants. Soirée spéciale sur TMC présentée par Nikos Aliagas, soirée pendant laquelle cette interview sera diffusée en intégralité et en exclusivité pour la France. L'entretien que le couple a accordé à Oprah Winfrey et qui a donc été diffusé hier aux États-Unis sur CBS.
Accordé pour 7 millions de dollars si j'ai bien lu. Le focus programme du jour, c'est l'émission Profession sur Canal+ ce soir.
Profession, acteur, actrice ce soir, 6 comédiennes et comédiens réunis autour d'une table pour parler de leur métier. C'est le principe de l'émission lancée par Michel Denisot, réunir plusieurs personnalités d'une même profession pour qu'elles échangent sur leur métier. Il y a eu les explorateurs et les exploratrices, les stand-uppers, stand-uppeuses et ce soir donc, les acteurs, les actrices à 4 jours des Césars. Tous ont d'ailleurs déjà été nommés ou récompensés par le passé dans la cérémonie. Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Pierre Ninet, Karine Viard et Roche Dizem seront donc sur Canal ce soir. L'occasion de les écouter, de se confier sur leurs doutes, sur les castings, sur leur rapport au corps. Une émission pleine d'anecdotes et de réflexions grâce à un format long, près d'une heure et demie, ce qui plaît beaucoup à son présentateur Antoine Decaune et ce qui fait, selon lui, la force du format.
Se dire qu'on a une heure devant nous pour parler et qu'on ne va pas être interrompu par des jingles, par des magnétos, par des applaudissements, par on est dans un studio où tout ce qui est technique disparaît. C'est très, très intime, très, très cosy. Il n'y a pas de caméra à vue, il n'y a pas de son à vue et très rapidement vous oubliez que vous êtes en train d'enregistrer une émission et que c'est de la télévision. Et c'est ce qui me plaît, moi, c'est que ça ne ressemble pas à la télévision que je vois ailleurs.
Et d'autant plus qu'il est rare que des acteurs et des actrices participent à une émission sans avoir à faire la promotion d'un film. Contrairement à ce que laisse penser l'ambiance très détendue et conviviale autour de la table, ça n'a pas été l'émission la plus évidente à tourner pour Antoine Decaune.
C'est peut-être plus facile, paradoxalement, avec des gens qui ne sont pas acteurs. Parce que les acteurs ont l'habitude de rentrer dans la peau d'un personnage, de jouer dans des conditions qui sont très déterminées, très... Et au naturel, souvent, quand il s'agit de commenter le métier et des raisons profondes qui vous ont amené à faire ça, c'est souvent plus délicat. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une dynamique autour d'une table, qu'il y ait plusieurs invités et que chacun soit un stimulant d'une certaine manière pour l'autre. Et là, j'ai l'impression que ça marchait bien.
Voilà, Profession acteur-actrice, c'est ce soir en prime à 21h ou à voir plus tard sur MyCanal. Et pour entendre des extraits, rendez-vous juste après 10h, ce sera dans le zapping de demain d'Eva Rock. Et puis on peut déjà vous annoncer les prochains numéros de la collection Profession écrivain-écrivaine et pâtissier-pâtissière.
On reste sur Canal+, avec le message de Sébastien Thoen au journaliste du service des sports de Canal, justement.
Un message de remerciement et de soutien à l'humoriste licencié après une parodie de l'émission de CNews, l'heure des pros, l'an dernier, en fin d'année dernière, leur a envoyé un mail vendredi soir, selon le site Les Jours. Il témoigne de sa plus profonde amitié et reconnaissance pour ceux qui ont signé un communiqué, défendant alors la liberté d'expression. Des journalistes qui vivent aujourd'hui dans un climat de terreur, selon plusieurs témoignages. Quand je vois ce que vous traversez désormais, je suis évidemment désolé et dégoûté. Et je tenais à vous le témoigner, écrit entre autres Sébastien Thoen.
Merci beaucoup Antoine Janton et merci Louise Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À suivre dans notre info média du jour, focus sur la place des expertes dans les médias. La parité est encore loin, mais les rédactions y travaillent. Nous en parlons avec la directrice de la rédaction du HuffPost, Lorraine Provost, et Christelle Chiroux, journaliste à la rédaction de TF1, qui lance une ambitieuse initiative. A tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vondel.
Nous vous en parlions vendredi dernier dans cette émission. Les femmes sont toujours moins présentes que les hommes dans les médias audiovisuels, notamment 41% contre 59%, deux chiffres donnés dans le dernier rapport du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce constat vaut également pour une catégorie en particulier, les expertes, des universitaires, des chercheuses, des professionnels, dont les connaissances et la parole font autorité. Elles sont moins nombreuses que les hommes dans les médias, même s'il y a eu quelques progrès l'an dernier, la parité est encore loin. Il reste donc du travail, un travail que mène quelques rédactions à travers des opérations ciblées. Bonjour Lorraine Provost.
Bonjour, merci de l'invitation.
Vous êtes la directrice de la rédaction du HuffPost, site sur lequel vous avez publié une tribune il y a un mois. Vous demandiez alors aux expertes de se manifester davantage et vous allez nous dire si cela a fonctionné avec vous, avec nous. Christelle Chiroux, bonjour.
Bonjour Philippe Vondel, merci pour l'invitation.
Pareil, merci à toutes les deux d'être présentes en direct dans ce studio. Vous êtes journaliste, Christelle Chiroux, à la rédaction de TF1 et vous travaillez sur une opération que votre chaîne, que votre groupe même, lance aujourd'hui, la première promotion d'expertes à la une. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste. Mais d'abord, avant de détailler vos initiatives, je voudrais faire un point sur la situation actuelle dans vos médias respectifs. collectif. Lorraine Provost, quelle est la part d'expertes présentes sur le HuffPost, plus précisément dans les tribunes, puisque c'était le sujet de votre texte?
Alors, sur les tribunes, on a pu mener, faire les comptes sur trois domaines qui nous sont chers principalement, la politique, l'économie et les relations internationales. C'est vraiment les sujets clés au HuffPost. Et en 2019, on était à 29% de femmes, ce qui était vraiment trop peu. On a fixé un objectif de progression chiffré, on voulait la parité. En 2020, la crise a compliqué les choses, on est toutefois arrivé à 35%. Mais pour nous, c'est toujours insuffisant. On voit qu'on a pris 6 points, mais malgré tous nos efforts, l'accompagnement, on est encore trop loin de la parité. D'où l'appel dont vous parliez, Philippe.
Pardon de cette question subsidiaire, mais c'est peut-être le sujet. En quoi la crise a modifié les choses ? Écrire un papier, ça se fait de chez soi. Pourquoi les femmes seraient moins disponibles que les hommes ? Est-ce qu'on ne touche pas là à un autre sujet déjà directement ?
Alors si, tout à fait, on a remarqué un biais, un frein lors de cette crise, c'est que les femmes, elles étaient en première ligne. Et donc encore moins disponibles pour créer de l'analyse, créer de l'expertise. Et ça fait partie des quatre freins principaux, je pense, à la présence des experts dans les médias. Un de ces freins, c'est la charge domestique, tout simplement, en plus de l'habitus et de plein d'autres freins. Mais je pense que la charge domestique, c'est quelque chose qu'on doit aborder pendant la crise et après la crise.
Y compris chez les experts Bac plus 10.
Exactement.
Christelle Chiroux, c'est la même question pour vous. Quelle est la part qu'occupent les expertes dans les journaux et les reportages à TF1 ?
Alors, nous avons du côté du groupe TF1 notre propre étude qui va au-delà de l'étude du CSA, puisque nous regardons effectivement le nombre d'intervenantes dans tous les reportages de nos journaux télévisés. Et nous faisons depuis 2016. Et il y a une vraie évolution, c'est-à-dire que nous étions à 28% pour les intervenantes TF1 sur les plateaux et dans les sujets, et nous sommes aujourd'hui à 48%, donc nous sommes assez fiers d'avoir atteint presque cette fameuse parité. En revanche, sur les expertes, nous étions à 22% en 2016 et en 2020, notre dernier baromètre date de 2019, puisque la crise est aussi passée par là, hein, comme tout le monde, et nous avons gagné 5 points, nous sommes passés à 27%. Donc on est encore loin pour les expertes de cette parité-là.
J'ai commencé à soulever la question avec à l'instant Lorraine Provost. Pourquoi pour vous les expertes ne sont-elles pas plus nombreuses ?
Alors, il y a une double responsabilité, je dirais. Bon, il y a la nôtre, hein. C'est pour cette raison aussi que nous mettons des choses en place, parce que jusqu'à encore il y a quelques années, nous avions nos propres carnets d'adresses et nous ne cherchions pas à les fournir avec d'autres personnes pour essayer d'aller chercher de nouveaux experts ou de nouvelles expertes. Et puis, il y a une part de responsabilité qui est celle des femmes, parce qu'elles se sentent souvent illégitimes. Elles pratiquent parfois l'autocensure, le manque de confiance, elles se disent qu'elles sont un petit peu des dans l'imposture si elles viennent sur nos plateaux. Parfois, il y a le syndrome de l'imposture aussi,
Compris les expertes.
Y compris des
femmes. Oui. À dessein, j'ironisais, mais ce n'était pas de l'ironie seulement. Y compris des femmes qui sont Bac plus 8, plus 10, qui sont agrégées souffrent du complexe d'imposture.
Si vous voulez, la difficulté peut-être qu'on a en plus par rapport... Enfin, il y a d'autres difficultés, je pense, pour Lorraine Provost. Mais nous, c'est qu'elles peuvent être aussi sur un plateau de télévision, par exemple sur LCI, en contradiction, en débat. Mmh. Donc, elles ont peur de ne pas pouvoir prendre cette parole, qu'on va leur couper la parole, etc., et qu'elles ne se sentent pas finalement d'affronter leur interlocuteur.
Lorraine Provost, vous voulez dire quelque chose à ce sujet-là, du complexe de...
Le syndrome de l'impostrisme, c'est vraiment le premier frein qu'on a constaté. Et une des réponses qu'on a souvent quand on contacte une experte chercheuse reconnue dans son domaine, c'est parfois, c'est dramatique, c'est « mais contactez mon directeur de thèse, il est génial !» Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent et qui est très symptomatique.
Et là, vous lui dites quoi ?
Et là, on dit, mais non, c'est vous qu'on veut. Ouais. C'est pas votre directeur de thèse. On vous contacte vous pour cette raison. Et là, ce qu'on a fait avec cette démarche d'appel, le fait d'en parler, de le rendre public, on a vu que beaucoup d'hommes avaient soutenu la démarche. C'était génial pour nous de voir qu'elle avait été comprise, entendue par des hommes. Et donc, on a eu des directeurs de thèse qui ont contacté leur réseau de femmes et qui leur ont dit, allez-y, c'est à vous maintenant, et qui les encouragent. Et ça, c'est important pour la suite, je pense.
Pour une fois, je vais répondre à la question que je vous ai posée. On sait ce que c'est ici dans Culture Média. Depuis le début de la saison, nous avons eu 500
533 invités. Les comptes ont été faits par Laure Gignès, notre programmatrice. 533 invités et seulement 163 femmes, soit près d'un tiers. Il y a encore du progrès à faire. Charité bien ordonnée, vous savez, commence par soi-même. Je dis ça, mais il faut aussi signaler qu'Europe 1 est la radio privée qui accueille le plus d'experts, selon le CSA. 41% d'experts invités. Pourquoi je vous en parle ? Parce que je dois dire qu'il est bien plus facile de recevoir des hommes que des femmes. Les femmes déclinent plus souvent les invitations. Dans le cas d'un film, par exemple, les comédiens sont beaucoup plus disponibles que les comédiennes. Maintenant, la question, comment faire pour changer cette situation ? Lorraine Provost, vous avez lancé un appel. C'était pas vers vous que je voulais me tourner. C'était vers vous, Christelle Chiroux. Le groupe TF1 lance aujourd'hui la première promotion de l'opération Experte à la Une. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est un projet assez ambitieux parce que pour aller plus loin, on avait déjà des journées Experte à la Une organisées au sein de notre siège à TF1. Et on s'est dit qu'on voulait aller plus loin, leur proposer quelque chose sur du plus long terme. Et donc, nous avons décidé de créer une classe avec une 15 femmes professionnelles dans différents domaines. Alors, plutôt des domaines dans lesquels nous disions il nous en manque, c'est-à-dire l'économie, la géopolitique, l'antiterrorisme. C'est très, très dur de trouver des femmes spécialistes de l'antiterrorisme dans la santé, évidemment.
C'est difficile de les trouver pour qu'elles viennent sur votre plateau ou parce qu'elles n'existent pas et qu'il n'y a pas d'expertes ?
Là, c'est différent. Moi, je peux vous donner un exemple. J'ai rencontré 5 juges d'instruction du pôle antiterrorisme, du parquet de Paris. Et ces femmes-là, elles ont quand même d'autres contraintes. Il faut comprendre aussi ça. C'est vrai qu'on voit souvent le juge Marc Trividic, mais qui n'est plus en activité. Là, elles sont en activité et là, c'est pour des raisons de sécurité. Ces femmes-là, elles sont quand même accompagnées matin et soir par un agent.
Pardonnez-moi, comme le juge Trévidic, quand il était aux affaires de l'antiterrorisme, il n'y a pas de différence homme-femme.
Oui, mais il intervient beaucoup plus.
À quelle différence faites-vous allusion ?
Il intervient beaucoup plus. Elles peuvent intervenir peut-être plus souvent quand elles ne sont plus à ces postes-là.
Bien sûr, ça j'ai bien compris.
Par exemple, dans notre classe, nous avons sélectionné une lieutenant-colonel qui travaille à la Direction générale de la gendarmerie et qui, elle, a travaillé pendant 3 ans au bureau de la lutte antiterro. Donc là, elle va pouvoir s'exprimer parce qu'elle n'est plus en activité. Parce que vous imaginez bien que, par exemple, ces juges d'instruction qui sont en train de traiter des dossiers brûlants, si elles viennent à la télévision où on va voir leur visage, on va donner leur nom de famille, etc. Certaines me disaient, nos enfants ne savent pas quel est le métier que je fais. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas les mettre en danger. Et c'est pour ça que c'est compliqué.
Alors, vous avez choisi comme premier exemple ce domaine, l'antiterro, comme vous dites, un peu difficile, mais il y a aussi la justice, la recherche médicale, l'intelligence artificielle. Comment ça se passe concrètement ? On en parle dans Culture Média. La place des femmes expertes dans les médias, c'est tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Nous parlons de la place des femmes expertes dans les médias. Pourquoi on en voit si peu ? Et c'est un euphémisme. Le groupe TF1 lance aujourd'hui la première promotion de l'opération Experte à la Une. Vous l'avez dit un peu, Christelle Chiroux, nous parlions de l'antiterrorisme. Et c'est vrai que c'est un sujet très, très, très difficile. Mais évidemment, ça ne se limite pas à ça. C'est un programme de tutorat que lance le groupe TF1 pour 15 expertes. Quoi d'autre ? Dans quel domaine ? Et comment allez-vous travailler autour de ces femmes ou de ces femmes à découvrir ?
Alors, avec Thierry Tuilier, donc le patron de l'info du groupe TF1, pour aller plus loin, nous sommes dit on va aussi essayer de responsabiliser bien les journalistes. Et donc, on a décidé de demander à nos présentateurs, donc Gilles Boulot, présentatrice, Anne-Claire Coudray, de LCI également, Julien Arnaud, par exemple, et puis des rédacteurs en chef, des journalistes de la rédaction, de parrainer ou de marrainer chaque experte. Ça veut dire quoi pour le parrain-marraine ? Eh bien, ça veut dire qu'il s'engage à la suivre tout au long de l'année, à lui faire visiter les locaux, à lui parler de son métier, à échanger sur qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'on attend d'une experte quand on vient vous voir, de leur faire visiter la rédaction de TF1, participer à un journal ou venir sur une émission sur LCI. Et puis ensuite, ces femmes, elles vont être accompagnées toute l'année avec des sessions de média training. Elles vont être accompagnées sur des sessions de coaching. Elles vont assister à des conférences avec des personnalités inspirantes ou professionnelles. Elles auront une rencontre avec la marraine d'honneur, je tiens à le préciser quand même, parce que j'étais ravie qu'elle accepte, c'est Elisabeth Badinter.
Ah oui.
Donc elles auront une rencontre avec leur marraine d'honneur, Elisabeth Badinter. Et puis, elles auront des échanges, si elles veulent redéjeuner avec leur parrain marraine, si elles veulent revenir. Enfin voilà, à eux de suivre tout au long de l'année leur parcours. Et à la fin de l'année, on espère que toutes ces expertes nous diront oui lorsqu'elles seront sollicitées par les journalistes, mais pas seulement pour nous, pour tous les autres médias. Si elles veulent venir sur Europe 1, eh bien tant mieux.
Avec plaisir. Média training, c'est à la fois apprendre à parler en public et aussi apprendre à parler sur un plateau, ce qu'on appelle le fight à la baston,
exactement,
avec des garçons et aussi avec parfois des personnes de mauvaise foi.
Exactement.
Parce que ça aussi, c'est un apprentissage.
Bien sûr, c'est pas la même chose que d'être interviewé pour un reportage télévisé parce qu'on va faire le portrait d'une d'entre elles, et ce sera d'ailleurs le cas ce soir avec une jeune commissaire de police de 25 ans qui est dans notre promo et qui aura un portrait dans le journal de 20h ce soir. Donc il y a le reportage et puis il y a la confrontation, le débat au plateau, et qui est complètement un exercice complètement différent. Donc c'est leur donner les clés pour qu'elles aient confiance, qu'elles disent oui et qu'elles viennent affronter un Philippe Vandel ou un contradicteur.
Et déjà, est-ce qu'elles elles ont été difficiles à convaincre ?
Non. En fait, non, parce que je pense que quelque part, elles étaient même ravies qu'on leur propose ces sessions, ces rencontres, parce qu'elles ne connaissent pas nos métiers. Mmh. Moi, j'en ai rencontré déjà quelques-unes, puisqu'on a fait un petit film pour le lancement. Elles sont venues à TF1. Nous avions une séance de maquillage. Enfin, voilà, on a fait ce qu'on fait pour tous nos invités quand ils viennent sur nos plateaux. Mmh. Et elles étaient ravies déjà de nous rencontrer, de discuter avec nous. Et il y a une jeune économiste qui nous disait, mais vous rendez compte, moi, je suis 7 heures devant mon ordinateur. Je ne sais pas prendre la parole en public. Voilà, donc
elles
je suis intéressée.
Elles n'ont pas le réflexe non plus. Nous, ce qu'on voit, c'est vraiment que les femmes n'ont pas intégré le temps médiatique dans leur routine de travail. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie de leur périmètre. Elles n'y pensent pas. Et donc, quand on les contacte, elles sont surprises. Elles ne s'y attendent pas. Elles vont rediriger vers quelqu'un d'autre. Alors que les hommes disent oui, sans forcément réfléchir, parce qu'ils ont des personnes. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà vu autour d'eux. Leurs collègues le font. Et voilà, en effet, elles ne l'ont pas intégré. Elles n'ont pas cette habitude.
Lorraine Provost, vous avez lancé un appel, je l'ai dit, c'était il y a un mois. Que demandiez-vous aux femmes précisément ? Et ensuite, vous me direz, quelle réponse avez-vous eue ? Quel est le résultat de cet appel ? D'abord, que demandiez-vous ?
Alors, ce qu'on demandait aux femmes et aux hommes, c'était de nous recommander de nouvelles expertes pour des tribunes dans trois domaines, donc la politique, l'économie, les relations internationales, où on était encore trop loin de la parité.
Et alors ?
Le résultat, un mois plus tard, on est vraiment satisfait, parce qu'on a reçu plus de 400 contacts de femmes, c'est énorme. À titre de comparaison, on publie 500 tribunes sur un an. Donc là, ça veut dire 400 tribunes potentielles de femmes. Ce qu'on a remarqué avec Catherine Laurent, la journaliste qui travaille sur ce sujet au HuffPost, c'est que ce sont souvent des primo-autrices, des femmes qui sont certes expertes dans leur domaine, vraiment compétentes, mais le sens de leur prise de contact est... Coucou, je suis là, et maintenant, comment je fais ? C'était vraiment ça.
Ce qu'on a souhaité, nous aussi, par rapport à ça, c'était qu'on a, on a des personnes qui sont vraiment novices, entre guillemets, qui n'ont jamais fait de reportage ou répondu aux questions des journalistes, et puis d'autres qui sont plus expérimentées.
Oui.
Et je pense que la complémentarité va leur permettre aussi de créer, eh bien, alors, bon, y a la crise et d'organiser des rencontres, ça va être un peu plus compliqué là en cette période, mais l'idée, c'est vraiment qu'elles soient soudées entre elles. On parle de sororité, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais voilà, c'est qu'elles puissent aussi s'entraider et se donner des conseils et se dire, écoute, voilà, moi je suis allée sur un plateau, voilà comment ça s'est passé, etc. Donc on a quand même des profils très différents de toutes les générations, donc je pense que ça va faire quelque chose d'assez intéressant à la fin de l'année.
Il y a une autre méthode pour arriver à la parité, c'est imposer des quotas. C'est ce que souhaite faire la majorité actuelle. Elle va déposer une proposition de loi aujourd'hui à l'Assemblée. Cela ne concerne que les instances dirigeantes des entreprises. Est-ce que c'est une méthode qui pourrait s'appliquer, selon vous, à la présence d'experts dans les médias, Lorraine Provost?
Alors moi je suis pas pour ce terme de quota. En revanche, je pense que c'est très très important que les
si
médias.
Si vous
n'êtes
pas d'accord avec le terme et que vous êtes d'accord avec le résultat, c'est la même chose. Oublions le mot quota.
C'est ça. L'objectif, il est sain. Il faut compter.
Bon, la question était, faut-il le souhaiter ou faut-il l'imposer?
Il faut l'imposer, pour moi, dans une rédaction, si ça n'est pas suivi naturellement par la rédaction. Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, moi j'ai la chance de travailler dans une rédaction où on est tous alignés sur ce projet-là et tout le monde fait des efforts, que ce soit en tribune comme on en parle, mais dans tous les domaines d'activité, comme le journalisme science et pas seulement sur les articles parentalité et autres.
Christelle Chiroux, même question. Est-ce que vous êtes favorable à des quotas ?
Moi, ça m'embêterait qu'on mette en place des quotas, puisque nous mettons en place, et je pense que c'est à nous, et nous sommes responsables de ça, de mettre en place des initiatives, alors comme experte à la une et cette promo, comme nous le faisons à TF1, mais comme Lorraine le fait de son côté, comme d'autres médias le font, je pense qu'on peut y arriver sans. On peut dire que les quotas ont été un mal pour un bien, par exemple pour les conseils d'administration, mais je pense que dans nos métiers, dans des rédactions, on doit y arriver. Moi, les objectifs, c'est qu'avec Thierry Thuillier et Gilles Pélisson, aussi le PDG du groupe, c'est qu'on y arrive le plus tôt possible, et justement pour éviter ces quotas. Je pense que la bonne voie, ce sont les initiatives qui sont prises dans toutes les rédactions. Et les quotas, si on pouvait s'en passer, ce sera très bien.
Merci beaucoup Christelle Chiroux, journaliste à TF1, le groupe qui lance aujourd'hui la première promotion d'experte à la une. Et merci Lorraine Provost.
Émission à retrouver quand même sur le groupe TF1 à partir de 11h30, présentée par Marie-Sophie Lacaro.
Et merci Lorraine Provost, directrice de la rédaction du HuffPost et Europe 1, dirigée par une femme, faut-il le préciser, je salue Constance Benquet. Europe 1 se mobilise pour cette journée internationale des droits des femmes. Programmation spéciale jusqu'à ce soir. Deux exemples à 14h. Christophe Ondelat va revenir sur le parcours incroyable d'une militante iranienne, Nexia. Et puis à 16h, Mathieu Noël et Stéphane Bern vont raconter le destin de femmes exceptionnelles et libres. Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir et Céline Dion. Dans un instant, une femme, Florence Duhaillot, directrice générale de Studio 89, qui produit notamment Top Chef et surtout la nouvelle saison de l'émission Mariée au premier regard. Ça démarre ce soir sur M6. Et dans quelques instants, sur Europe 1, tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Florence Duhaillot.
Bonjour Philippe.
Vous êtes productrice, directrice générale de Studio 89, société de production intégrée au groupe M6. Vous produisez notamment Top Chef, Un dîner presque parfait, Cauchemar en cuisine, Chasseur d'appart et J'en oublie. Et votre actualité, c'est Mariée au premier regard, le lundi. Donc ce soir sur M6 à 21h, c'est la 5e saison qui démarre. J'en déduis que la saison 4 a bien marché.
Ça a été un carton. De toute façon, dès qu'on parle d'amour en ce moment, c'est un carton.
Ouais. Les chiffres, vous les avez en tête ou pas?
Oui, on a fait 3 millions de téléspectateurs. On a fait 12 en 4 ans et plus et 26 en ménagère.
Ménagère, c'est les femmes responsables des achats de moins de 50 ans.
Vous avez raison.
Alors, pour qui n'a jamais vu Mariée au premier regard, expliquez le principe de l'émission.
Alors, le principe de l'émission, ce sont des gens qui sont dans des schémas amoureux qui les amènent toujours à l'échec, pour mille raisons, et qui ont décidé que pour la première fois, ils voulaient donner une nouvelle chance pour trouver l'amour, et qui donc se remettent à la science. Donc en fait, ils vont passer des milliards de tests, des tests psychologiques, des tests scientifiques, des tests sociologiques, ils vont avoir des entretiens cliniques, et en fait, après, on va leur trouver une compatibilité amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui vont lui dire, on a trouvé quelqu'un qui est compatible avec vous. Mais pour ça, on a besoin que vous vous engagiez et donc vous allez rencontrer cette personne le jour de votre mariage. C'est ça le principe de cette émission-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu la personne avec qui ils vont être compatibles, mais ils vont la rencontrer pour la première fois le jour de leur mariage.
Et ils arrivent, c'est de la télévision, l'image est très très forte. Non seulement ils arrivent devant le maire, un maire officiel, hein, c'est pas une mise en scène.
Ah, c'est avec un vrai mariage.
Ouais. Avec les familles. J'ai regardé l'émission qui passe ce soir, donc la première de la saison 5. Alors ce qui est escamoté, il y a quelque chose d'escamoté. On sait juste, vous dites, les couples sont scientifiquement compatibles. En l'occurrence, ce soir, il y a un couple à 83% et un autre à 77%. Mais comment est fait ce calcul? D'où sort ce pourcentage? Il y a deux experts que je vais citer, Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Mais quel est leur algorithme?
Alors, leur algorithme, moi, je ne peux pas vous l'expliquer parce qu'en fait, c'est eux qui le font. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, les gens qui se présentent dans cette aventure-là, on leur parle de leurs valeurs. Ils ont des entretiens avec Estelle et Pascal. Ils passent des tests sociologiques, ils passent des tests psychologiques. Et toutes ces données-là, elles sont croisées.
Pourquoi vous ne montrez pas cette phase-là?
En fait, au cours des émissions, au début, on les montrait. Et puis maintenant, on ne les montre plus parce que de toute façon, les gens savent de quoi il s'agit. Et donc, on va directement sur l'histoire d'amour.
Combien de candidats avez-vous eu cette année?
On a eu 10 000 personnes qui se sont inscrites. Après, nous, notre rôle de producteur, c'est que les gens qui se sont inscrits, entre le moment où vous vous inscrivez et le moment où en fait, vous rentrez dans cette aventure-là, en fait, il faut que nous, on sache si c'est des gens qui le font par pari ou vraiment, ils ont envie de s'engager. Donc nous, notre rôle, c'est d'écrémer toutes ces personnes-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, il y a une centaine de personnes, une centaine de femmes et une centaine d'hommes qui rentrent ce qu'on appelle dans les ateliers.
Alors 10 000, une centaine, et vous avez choisi 14 candidats filmés, donc 7 couples possibles. Oui. Séquence forte en début d'émission, l'experte Estelle Dossin appelle le garçon puis la fille pour leur dire qu'elle aura trouvé une moitié compatible. Et on dirait qu'elle leur annonce, juste avant une grève du poumon, qu'elle a trouvé un poumon. Ils sont en larmes. Cécile, 41 ans, elle est en pleurs rien que d'apprendre ça, sans même avoir vu le garçon, juste savoir qu'il y en a un qui est disponible. Au moment du coup de fil, Cécile, elle est avec ses copines, elle n'en revient pas, et même les copines n'en reviennent pas.
Je vous ai trouvé un ami. moitié de avec vous à 83%.
Oh, elle a purée.
Vous avez fait comment?
Comment vous vous sentez?
Je suis trop contente.
C'est génial.
Il faut que j'encaisse, mais je me sens heureuse et en même temps vraiment surprise. Comment vous avez pu trouver quelqu'un qui me corresponde, que ça fait depuis 2011 que ma vie sentimentale, c'est un désert, avec de temps en temps quelques oasis, n'est-ce pas? Mais bon, il n'y avait jamais d'eau dedans.
Elle est en larmes, les copines sont en larmes, elle manque pas d'humour. Et même les garçons sont en larmes, on n'est pas en train de se moquer des filles. Les garçons sont en larmes dans la même situation. On leur dit, on a trouvé, si j'ose dire, une donneuse, et le type fond en larmes.
Mais oui, c'est parce que c'est exactement ce principe-là. C'est qu'en fait, ce sont des gens qui ont répété des schémas amoureux qui les ont amenés à l'échec. Et ça fait des années qu'en fait, ils renouvellent échec avec échec. Et donc là, ils se disent, mais pour la première fois, je vais avoir quelqu'un qui va être compatible avec moi, qui va aimer les mêmes choses, qui ont envie de s'engager, qui veulent fonder une famille. C'est pour ça qu'en fait, c'est un truc absolument incroyable. Cette attente est incroyable.
On ne va pas spoiler la deuxième partie de l'entretien avec vous, Florence Duhaillot, mais maintenant, l'émission a 5 ans, donc il y a du recul. Ceux qui se sont rencontrés il y a 4 ans, pour certains, ils sont toujours ensemble.
Il y a de nombreux couples qui restent ensemble et on a 3 bébés. Depuis 5 ans, on a quand même 3 bébés. Et je ne spoilerai rien de cette année-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette année, il y a des couples qui restent ensemble, dont un qui a déjà un heureux événement en route.
Ouais. J'ai même lu ça, échographie. Je ne dis que ce mot. On marque une pause. On se retrouve avec Florence Duhaillot. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Florence Duhaillot, directrice générale de Studio 89, qui produit l'émission dont j'ai perdu le nom.
Marié au premier regard.
Marié au premier regard, je l'ai perdu. J'avais tellement de notes, je ne retrouvais plus le titre de l'émission. Et comme il y a une autre émission dont le titre ressemble un tout petit peu, je ne voulais pas me planter. Il y a plusieurs couples dans cette émission, évidemment. Il y a aussi Mélina et Yannick qui sont compatibles, eux, seulement à 77% dans Marié au premier regard. Et Yannick se présente.
Je m'appelle Yannick, j'ai 29 ans et je suis célibataire depuis 2 ans et demi à peu près. Aujourd'hui, j'aimerais fonder une famille, avoir des enfants, les chérir avec ma femme. Pour moi, c'est important parce que mon père ne m'a pas reconnu. J'ai grandi avec ma mère et mon frère. Et le fait de ne pas avoir vécu avec mon père, ça reste quand même un problème pour moi. J'ai envie de savoir ce que c'est, avoir une vie de famille, avoir des enfants. Et j'aimerais beaucoup en avoir 6. Et je ferai tout pour que ça se concrétise.
Mais vous dites pas tout, parce qu'en 2021, une fille de 30 ans qui veut porter 6 enfants... Ça court pas les rues, vous l'avez pas dit, qu'il voulait 6 enfants.
C'est bien pour ça qu'il veut une compatibilité amoureuse et être sûr de sa partenaire, parce que lui, il a, de mémoire, il a 26 ans, il a la vie devant lui, mais il veut faire des enfants tout de suite. Donc il ne veut pas se tromper.
C'est, voilà. Je souris parce que si on veut en faire 6, il vaut mieux s'y prendre vite. C'est pour ça que je me marre. Alors, tout se complique parce que Yannick doit l'annoncer à sa mère. Il ne sait pas comment lui dire. Sa mère n'est pas du tout favorable. Elle tire franchement la tronche. Et là, il y a une nouveauté dans cette saison 5. C'est qu'il n'y a pas seulement des gens dans le premier âge, mais des gens dans le deuxième âge, si j'ose dire. Et, par exemple, Cécile, elle a 41 ans et elle a déjà une fille. Sa fille s'appelle Anissa. Elle a 16 ans ou 17 ans. Elles ont une discussion quand elle lui annonce sa décision de participer à l'émission, donc de rencontrer un futur mari le jour même de la cérémonie. Le mariage est dans quelques jours. Ça passe pas du tout entre la mère et la fille. Dialogue.
Ça te dérange pas d'arriver à la mairie que le mec il te connaisse pas? De toute façon, moi je serais plus là alors.
Ah bon?
Tu vas aller. J'ai pas envie d'avoir un mec à la maison. Hein.
D'accord, tu n'as pas envie d'avoir un mec à la maison?
Non.
Et pourquoi?
Bah, parce que, je sais pas, je vais revenir avec lui à la maison, moi je le connais ni d'Ève ni d'Adam.
Mais même si tu comprends pas trop ma démarche, il y a des choses qui t'échappent. Mais moi, cette expérience, je veux vraiment la faire avec toi, parce que je veux la partager avec toi. Parce que tu es la personne qui est le plus important dans ma vie, et ça, tu le sais.
J'ai mal à la tête, là, c'est bon.
Oh, j'ai mal à la tête, dit l'ado, c'est bon. En fait, un des enjeux de l'émission, c'est l'émission elle-même. Est-ce qu'il est convenable d'épouser quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie?
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que déjà, là pour aujourd'hui, il y a quand même une sorte de phénomène de société, c'est qu'un quarantenaire sur deux est célibataire. Enfin, célibataire, c'est qui? Mais à 40 ans, généralement, vous avez quand même des enfants et vous voulez reconstruire votre vie. Oui. Donc, la situation que vit Cécile et Anissa aujourd'hui, c'est une situation qui est vraiment assez... Elle est courante, c'est-à-dire que...
Je l'ai comprise, mais le modus vivendi, à savoir le modus opérationnel, à savoir qu'on va découvrir quelqu'un le jour du passage devant le maire, il y en a plein qui se posent des questions. Yannick a peur, il dit est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, les parents sont pas toujours pour.
Mais
l'émission est un enjeu, il y a une mise en abîme, l'émission est un enjeu elle-même de l'émission.
Non, mais l'émission, en fait, quand vous faites cette aventure-là, naturellement, vous entraînez votre famille. Ouais. C'est pas que vous. Et les gens, par amour, enfin, les papas, les mamans, par amour, ils suivent leurs enfants. Ouais. Après, quand vous avez un enfant, une ado, déjà, une ado est contre, par essence.
Normal.
Et c'est normal qu'elle ait cette réaction-là. C'est complètement normal. Sauf que Cécile est une femme responsable, c'est-à-dire que si elle décide de faire cette aventure-là, d'abord, c'est pour elle. Sa fille a quasi 18 ans. Elle sait que, de toute façon, sa vie amoureuse est devenue sa priorité après avoir élevé sa fille. Donc, elle fait un choix pour elle. Et après, ce qui est très important dans cette émission, c'est que, justement, les experts accompagnent les futurs mariés dans toutes ces décisions-là. Comment en parler aux enfants? Comment lui présenter cette personne-là? Et cette chose, tout, il y a un gros accompagnement sur justement comment intégrer sa famille dans cette nouvelle aventure.
Florence Duéo, est-ce qu'en tant que productrice, vous avez eu peur que certains candidats ou candidates vous lâchent en cours de route ? Et est-ce que c'est déjà arrivé?
Oui, c'est déjà arrivé, mais c'est normal. C'est
Ah non, je ne dis pas que, je dis pas que c'est pas normal. Je vous demandais si c'est déjà arrivé.
Non, mais ça nous est déjà arrivé parce qu'en fait, c'est un engagement fort. On va se marier. Oui. Il y a vraiment, c'est cet engagement qu'on prend avec soi que pour la première fois, alors qu'on est dans une société de zapping, pour la première fois, on va donner une chance à cet amour-là. Et encore une fois, je reviens sur les enfants. Naturellement, vous imaginez bien que toute personne qui va faire cette aventure-là, on a déjà parlé avec ses enfants et a déjà décidé, en son âme et conscience, d'intégrer les enfants.
C'est d'ailleurs une des punchlines de votre dossier de presse. Pour une fois qu'on peut avoir un peu de suspense dans un mariage. On n'est pas sûr que ça réussisse. Je ne vais pas tout spoiler. Autre nouveauté que vous lancez dans 2 semaines, ça s'appelle « Et si on se rencontrait ?». Ça va démarrer lundi 22 mars en deuxième partie de soirée après « Marié au premier regard » à 23h10. Racontez le principe de « Et si on se rencontrait ?».
Alors, le principe, c'est que pendant le confinement au mois de mars, on s'est aperçu qu'il y avait une personne sur trois qui était sur les réseaux sociaux pour trouver l'amour. Et on s'est aperçu qu'il y avait 8 millions de personnes qui communiquaient avec une autre personne en termes amoureux.
D'où cet extrait de la présentation bande-annonce.
Bienvenue à vous qui aimez les belles histoires d'amour. Celles que vous allez découvrir ce soir sont incroyables. Voici des gens tombés amoureux sans jamais s'être rencontrés. Comme 8 millions de Français, ils se sont connus sur les réseaux sociaux, un forum de discussion ou une application de rencontre. Et alors qu'ils ne se sont jamais vus en vrai, ils vivent une relation passionnée.
On s'est rencontrés sur un réseau social.
Et le feeling est directement passé. C'est un coup de foudre.
C'est ici, au château de Villiers-le-Mailleux, que ces couples virtuels vont se voir pour la première fois en vrai.
T'es trop belle.
C'est vrai, toi aussi, t'es beau. J'ai un peu plus, j'ai chaud.
J'enlève tout. Non, n'enlève pas tout.
Tout se passait bien au début, et à un moment, je crois plus ce qui se passe.
Par rapport à la photo, je la reconnais pas complètement.
Je le sens pas comme par message. Par message, c'est fluide. Et là, ça n'a rien à voir.
Ces histoires d'amour virtuel ont-elles un avenir dans la vie réelle? Nous allons vite le savoir, car ils ont enfin osé demander à leur amoureux derrière l'écran.
Et si on se rencontrait?
Et si on se rencontrait, que se passe-t-il ensuite? Il y en a qui sautent dessus.
Non mais l'émission, c'est la première fois que vous voyez en télévision en fait la rencontre entre deux personnes, oui, qui communiquent ensemble depuis des mois, voire des années. Quand vous communiquez sur les réseaux sociaux avec quelqu'un, même si vous avez l'impression de le connaître, c'est un fantasme. Donc cette rencontre-là, on ne l'a jamais vue en télévision et elle est quitte ou double. Soit tout à coup, la personne que vous voyez arriver correspond à votre fantasme et là, vous avez l'impression de le connaître depuis des années et quasiment, on a vu des gens qui en fait s'embrassaient à pleine bouche alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés.
Là, vous tournez dans un hôtel, il y a la chambre juste au-dessus et ça
alors,
y va vite.
Non, c'est un endroit où on leur propose, en fait, on leur propose de passer plus de temps ensemble pour concrétiser, ou pas, enfin, concrétiser, ouais, pour qu'ils aient le temps de se parler et de se connaître mieux. Mais sinon, il faut savoir aussi que quelquefois, les gens perdent totalement leurs moyens parce que quand vous communiquez avec quelqu'un, là, vous dites, même si vous le connaissez, vous vous dites, est-ce que je vais lui plaire, est-ce que je suis suffisamment belle, etc. Et là, il y a plein de gens qui perdent totalement leurs moyens.
Et puis il y a aussi des gens qui ont mis des photos qui ne sont pas les bonnes. Et on arrive, on ne ressent pas la photo.
Quand vous avez une relation virtuelle, vous pouvez aussi cacher certaines choses.
Ça s'appelle « Marié au premier regard ». C'est ce soir sur M6 à 21h. Et puis dans 2 semaines, et si on se rencontrait, ça sera en deuxième partie de soirée. Merci beaucoup Florence Duhaillot d'être venue parler de ces programmes. Culture Média continue, il y aura le rappel des titres. Il y aura Eva Rock pour son zapping du lendemain. Bertrand Chameroy pour son écran de veille, je l'avais dit. Spécial The Voice. Et puis notre invité, le chanteur Raphaël, pour la sortie de son nouvel album. Et il va nous chanter une chanson en live, ici en direct, dans ce studio. Culture Média continue, à tout de suite.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment, Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.